C'est quoi cette bouteille de lait ?
Voilà, le fils regarde son père qui lit le journal. Le père ne bouge pas. Et le fils redemande :
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?
Le père ne répond toujours pas. Et à un moment donné, le fils demande :
Papa, comment on fait les bébés ?
Et là, le père plie son journal et explique à son fils ce qu'est la bouteille de lait. Attitude, vous en conviendrez, totalement masculine. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, ça vous rappellera certainement une publicité dans les années 90 qui passait sur les chaînes françaises. Mais une attitude que je trouve très intéressante parce qu'elle reflète bien, dans le fond, cette manière de communiquer d'un homme, finalement, avec un homme en devenir. La France, qui a sorti un certain nombre de statistiques assez préoccupante d'ailleurs ces derniers mois, ces dernières années, relève que dans l'Hexagone, il y a les chiffres suivants. Les hommes commettent 86% des meurtres, la quasi-totalité des viols, 99%, presque tous les incendies criminels, c'est aussi eux, des vols avec armes, c'est aussi eux, ainsi qu'une grande part des accidents mortels sur la route. En prison, 96,3% de la population carcérale est masculine. Alors, je pourrais rajouter des chiffres parce que je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment saisi. 69% des morts sur la route, des hommes. 80% des morts par overdose, des hommes. 83% des auteurs de crimes conjugaux, des hommes. Les hommes sont 3 fois plus exposés que les femmes au burn-out. Et aux addictions. N'en jetez plus. Alors oui, les faits qui sont décrits ici ne font pas sourire du tout. C'est vrai que les auteurs qui publient ce type de chiffres disent que c'est le résultat des effets finalement délétères de l'éducation masculine, encore centrée sur l'agressivité et la compétition, avec des conséquences dramatiques. Et c'est ce qu'ils appellent, eux, d'ailleurs, les coups de la virilité. Alors, je ne suis pas sûr que, messieurs qui vous retrouvez ici ou qui nous suivez, vous vous retrouvez ce matin dans ces chiffres-là. Pas sûr non plus que vous ayez forcément envie qu'on vous associe à ces chiffres-là. Mais d'un autre côté, et ma première question ce matin, est-ce que ces chiffres disent tout de l'homme? Est-ce qu'ils résument à eux seuls ce que les hommes sont? Je ne suis pas sûr que nous puissions faire cette déduction-là. Ils ne disent pas tout de l'homme et ne représentent pas tout de lui. Mais alors, qui est-il, cet homme? C'est vrai qu'avec la redéfinition du couple, le partage des tâches ménagères, la garde des enfants, le temps partiel, les mouvements sociaux, l'essor de la féminité, la vague MeToo, certains hommes cherchent leur place. Cherchent leur place dans cette société, aujourd'hui, à l'instant, au moment ou au jour où je vous parle. Alors je pense qu'il peut être nécessaire de se poser la question s'il serait bon de réaffirmer la masculinité dans le monde, dans un monde où finalement l'homme semble avoir perdu son identité d'homme. Alors certains mouvements virilistes, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, appellent à des rencontres pour que l'homme finalement réapproprie sa virilité, qu'il retrouve sa place d'homme vrai dans la société, dans la famille, et il s'agit pour lui de s'affirmer en tant que force virile, à savoir de valoriser la force physique, la vigueur, le courage, l'endurance, le dépassement, la persévérance, l'affirmer dans un groupe, l'affirmer pour soi, et finalement l'affirmer aux autres. Alors je ne sais pas, messieurs, si vous vous retrouvez tous dans ce qui vient d'être dit. Mais peut-être pas forcément. En tout cas, moi, je ne suis pas sûr de m'y retrouver totalement. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut sortir des stéréotypes et des clichés? Est-ce qu'on peut finalement fonder la virilité que sur, d'un côté, il y a l'homme viril, qui finalement reprend les caractéristiques dont nous avons parlé avant, et puis d'un autre, alors il y aurait la douceur, la sensibilité, l'altruisme, l'affection, le réconfort. Deux mondes. Une opposition complète. Et finalement, ces mots que nous avons dits avant, tournés vers l'autre, seraient plutôt propres aux femmes. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'idée qu'il existe un gène masculin de la perceuse, il est toujours bien réel. Alors, moi, je n'ai pas dû le recevoir, très probablement, mais il est encore très présent. Comme d'ailleurs l'idée qu'un homme ou un garçon ne pleure pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut dire sur ce sujet, eh bien, les idées sont tenaces. Mais parler de l'homme et parler de sa place, parler de la virilité, de la masculinité, c'est prendre un risque. C'est un risque, d'ailleurs, c'est très délicat. Je prends un risque ce matin pour le faire. Parce que c'est un domaine sensible au moment où, effectivement, la question du genre se pose. On a vu, avec tout ce que la société aujourd'hui remet potentiellement en question. Mais moi, j'ai envie d'y voir une opportunité. J'ai véritablement envie que nous nous posions justement la question. Parce que le monde voudrait y répondre à sa manière. Une opportunité, oui, car la question de l'homme, c'est interroger l'homme et la femme. Parce que oui, mesdames, mesdemoiselles, eh bien, parler des hommes, ça vous concerne aussi. Et peut-être même beaucoup plus que ce que l'on peut dire encore. La question de l'homme est autant la question de la femme que de l'homme lui-même. Sur les rapports que nous entretenons, au masculin, à la masculinité, voire à la virilité, de la place qu'elle occupe peut-être de manière le plus souvent inconsciente, à travers nos attitudes, nous d'hommes, nos attitudes, nos comportements, nos paroles, envers nous-mêmes et envers les autres. Alors évidemment, ce matin, il ne s'agit pas d'avoir la prétention de répondre de manière exhaustive à cette question sur la masculinité ou la virilité. Essayons déjà, modestement, d'ouvrir une porte, de briser un tout petit tabou, de lever un voile sur cette question-là, en dehors, et j'aimerais bien qu'on le fasse, en dehors de toute considération ou jugement de valeur, de toute généralité réductrice et de tout cliché. Vous connaissez le livre de John Gray, « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Alors moi, je ne vais pas vous reprendre le livre. Si vous avez envie, lisez-le, c'est un très bon ouvrage. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les hommes viennent forcément de Mars. Et toutes les femmes ne viennent pas forcément de Vénus. Mais enfin, ça, c'était une petite parenthèse personnelle. Voilà, ça, c'est les idées préconçues, c'est celles sur lesquelles on s'arrête, c'est les schémas, les stéréotypes. Et finalement, je me demande jusqu'à quel point, d'ailleurs, les hommes n'aiment pas ces stéréotypes. Parce que ça les rassure. Finalement, de donner cette image, de la garder, de la représenter à l'extérieur, oui, au moins, en l'affirmant ainsi, même si je ne suis pas sûr que je le vis en moi, ça va me rassurer, ça va me donner une identité d'homme. Oser parler de l'homme, peut-être dans une perspective différente. Oser en parler de lui dans une perspective biblique. Alors ça, c'est un défi. C'est un défi parce que, mesdames, vous allez dire, oui, mais dans le fond, la Bible, c'est une histoire d'homme. Presque. Là, vous avez raison. C'est souvent écrit par des hommes. C'est souvent l'homme qui tient le rôle principal dans une société très patriarcale. Mais finalement, j'ai envie de vous dire que parler de l'homme à travers la Bible, c'est un sujet délicat parce que la Bible ne se pose pas la question du genre. Ce n'est pas son sujet principal. Alors comment allons-nous pouvoir quand même nous appuyer sur cette parole de Dieu pour essayer de comprendre ce qu'elle dit de l'homme. Alors en regardant de plus près, et c'est une conclusion ou une remarque que vous pouvez aussi vous faire vous-même, c'est que dans le fond, il n'est pas question d'un modèle d'homme au singulier, mais il n'y a pas un homme, il y a des hommes. Ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel. L'homme biblique, finalement, n'existe pas. Ou plutôt, il y a des caractères, il y a des changements, des tempéraments, des itinéraires, des renversements. Comme dans la vie, d'ailleurs. Oui, parler des hommes de la Bible, c'est surtout et avant tout raconter le témoignage de ces hommes qui ont rencontré Dieu et de la manière avec laquelle ça les a transformés. Alors oui, c'est vrai que c'est la rencontre avec Dieu, mais c'est aussi la rencontre avec Jésus de Nazareth. Peut-être l'homme qui se disait d'ailleurs « fils de l'homme », est-ce que ce n'est pas le suprême de la virilité? Non, ce n'est pas le triomphe du mâle, mais la transformation du masculin. Alors ce matin, puisqu'il existe non pas un modèle d'homme, mais des histoires d'hommes, j'avais envie d'en prendre trois, alors choisis de manière plus ou moins arbitraire, et de les partager avec vous. Alors la première histoire, c'est ce jeune homme qui rencontre cette demoiselle. Mais manque de bol, ils se sont fiancés. Manque de bol, il apprend qu'elle est enceinte. Alors évidemment, ça va poser un gros problème parce que ça soit de ce temps ou aujourd'hui, c'est pas bien vu. Alors ce jeune homme, il va faire quoi? Ben, il va essayer de voir par respect pour elle comment est-ce qu'il pourrait finalement garder son honneur à elle et son honneur à lui. Et là, quelque chose lui dit que dans le fond, c'est pas une bonne idée, qu'il faut pas le faire. Alors, il va quand même prendre sur lui, ce jeune homme, de vivre avec cette femme, de s'abstenir de toute relation intime pendant sa grossesse. Et puis, d'assister à la naissance et de prendre son rôle de père. Alors oui, il n'est pas le père de cet enfant, mais il va le devenir. Il n'est pas le père de cet enfant, mais il va prendre sur lui toute la responsabilité du père. Il va l'éduquer, lui transmettre ce que son père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son père, lui ont transmis. Il va faire de cet enfant un homme. Et il va même lui transmettre son métier. Et d'ailleurs, ce petit homme va un jour grandir et il va aimer à son tour son père, mais son vrai père. Il va apprendre à le prier, il va apprendre à lui donner la priorité et la plus grande des places. Voilà un homme jeune qui a réussi à respecter sa femme. Voilà un homme d'ailleurs qui ne parle pas. On ne lui trouve pas un seul mot dans la parole. La parole ne dit rien de lui, sur ce qu'il dit. Par contre, sur ce qu'il vit, sur sa relation à Dieu. Il va être bon protecteur, sans être dominant. Il va être un bon mari et un bon père. Il va essayer d'éviter que son fils adoptif rencontre des hommes toxiques, comme le responsable ou le gouverneur ou le roi de ce temps. Finalement, cet homme incarne un modèle de masculinité engagé, mais réflexif, attentif aux autres, sans s'imposer. Premier homme. Deuxième homme, alors là, on change de registre. Ça, c'est le solide gaillard, fort, musclé, puissant, certainement très beau, hein. Mais alors, qui n'avait pas très bien compris, dans le fond, que les muscles pouvaient servir à autre chose qu'à se battre. Rusé, il aimait bien raconter des énigmes, parce que comme ça, son intelligence et la sagesse qu'il avait reçue lui permettaient de dominer, peut-être aussi au niveau de la tête. Mais alors là, le problème majeur, c'était son rapport aux femmes. Incapable de gérer ça. Vraiment une catastrophe ambulante. Il en a essayé effectivement d'entrer en relation, de vivre des relations avec plusieurs. Échec, chaque fois. Alors évidemment, il y avait aussi une relation ambiguë avec ses parents, à qui il reprochait d'ailleurs de ne pas avoir vraiment su être des parents. Et voilà que notre homme, finalement, tombe dans des relations dysfonctionnelles, comme on dirait aujourd'hui. Les relations qui tournent court. Il se fait manipuler, le brave homme, même aussi fort qu'il est. Il se comporte de manière naïve. Il raconte des choses qu'il ne devrait pas, par exemple. Oui, sa vie pourrait être décrite comme un échec. Un échec parce que tout ce qu'il a mis en avant, tout ce que Dieu avait mis en lui, tous les dons qu'il avait reçus, finalement, il les a utilisés pour des mauvais objectifs. Il va mourir sans enfant et sa vie sera surtout marquée par des combats de la vengeance personnelle, qui deviendra d'ailleurs toujours plus forte, toujours plus violente. Oui, cet homme-là s'est enfermé dans sa violence et dans sa brutalité. C'est une histoire tragique d'un homme qui n'en est jamais véritablement devenu un. Mais peut-être est-ce ça le modèle de virilité. Le troisième homme, alors celui-ci, c'est un homme de souffrance. C'est un homme qui avait tout, qui vivait bien, marié, des enfants, une maison. Et un jour, il a tout perdu, sauf sa femme. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il est devenu malade. Et même sa femme trouvait qu'il était plutôt, voilà, pas très ragoûtant parce que, voilà, il avait des marques physiques de la souffrance et de la maladie. Il a été dépouillé de tous ses biens. Et même sa femme, à un moment donné, n'en pourra plus. Va l'abandonner. Alors il va vivre un long chemin. Alors oui, il est entouré d'un club d'hommes qui vont lui dire, mais dans le fond, mais qu'est-ce que tu as fait de mal pour mériter ça? Alors ce club d'hommes, évidemment, va trouver toutes les bonnes raisons pour lui dire que eux savent, mais que lui ne sait pas. Et notre brave homme, lui, se retrouve nu devant une alternative. Soit il s'effondre parce qu'il a tout perdu, soit alors il apprend de cette vulnérabilité. Alors il va choisir la deuxième option. Il va choisir d'assumer l'incertitude de sa condition. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je questionne, mais je n'ai pas de réponse. C'est sa manière à lui d'être un homme, d'être viril. Oui, cet homme-là va vivre une expérience humaine et spirituelle de ce que nous nommons aujourd'hui la fragilité et la vulnérabilité. Et sa grande force à lui, sa force masculine, j'ai envie de dire, c'est la résistance face à l'adversité qui se manifeste par un double courage et caractérise finalement la véritable virilité de Job. Un double courage d'affronter ce qu'il vit et d'accepter d'être transformé. Oui, il sera d'accord d'entrer dans le projet. Mais ce n'est pas sans larmes, ce n'est pas sans cris, ce n'est pas sans révolte. Et ce n'est pas faute d'avoir forcément toujours reçu des réponses. Il va finalement oser assumer devant son Créateur sa faiblesse qui devient une force. Et il a surtout résisté à une chose, celle de désespérer de Dieu. Alors vous aurez certainement reconnu qui se cache derrière ces trois hommes. Un Joseph, un Samson et un Job. Trois profils différents. On aurait pu en prendre d'autres. Et je vous laisse à vous choisir peut-être dans les personnages masculins de la Bible celui qui peut-être vous parle le plus. Mais ce que je trouve intéressant à travers ces trois profils, c'est que dans le fond, aussi caractéristique et aussi peut-être réducteur que ça puisse être, eh bien, ces trois hommes, finalement, représentent trois manières différentes avec laquelle la Bible parle de l'homme. Alors, certains y trouveront peut-être leur compte dans l'un ou dans l'autre. Et vous, mesdames, comment voyez-vous les messieurs ? Comment voyez-vous celui avec lequel vous vivez, votre frère, votre père, votre fils ? Peut-être les trois en même temps. Mais ça dépend quand. Ça dépend à quel moment. Ça dépend à quelle étape de la vie. Et je ne pense pas me tromper ce matin si j'affirme, et peut-être de manière un tout petit peu ferme, que nous les hommes, nous aimerions nous trouver quelque part. Non pas entre les trois, mais dans une forme de masculinité qui est marquée par une présence vraie, authentique, résolue et solide au monde et aussi aux circonstances de la vie. Mais qui se vit peut-être avec une certaine vulnérabilité, au quoi qu'il ne faut pas trop utiliser ce terme-là. Finalement, d'accepter d'être confronté aux insécurités de la vie et qui conduit à une forme de remise en question. Un autre rapport aux choses, un autre rapport aux gens, un autre rapport à la vie. Une virilité assumée qui est assez forte pour surtout reconnaître que cette force ne vient pas de nous, mais de Dieu. Alors la question qui ce matin nous est posée, une de plus, encore une fois, dans une réflexion, pas dans une recherche de réponse absolue, mais dans une réflexion. Quel combat voulons-nous, nous les hommes, mener ? Est-ce que nous voulons finalement rechercher cette masculinité dans le fait de garder notre vraie place, de la retrouver parce qu'on nous l'enlève aujourd'hui ? Oui, quelque part, c'est pas faux. Mais elle nous permet en tout cas de nous poser ces questions-là. Est-ce que c'est véritablement de rechercher une forme de domination, de continuer à vouloir tenir ce rôle parce que la société dit que c'est son rôle, de vouloir baser sa force virile sur tout sauf finalement il serait bon de le faire. Finalement, c'est le faux masculin. Et puis alors, il y a l'autre réponse, c'est de baisser les bras. C'est d'abandonner. Finalement, de dire, moi je suis un homme, mais finalement, c'est biologique. Et d'entrer dans une forme de relâchement, de soumission, de se dévaloriser, au risque de se perdre. Et finalement, d'aller rechercher comme un rêve cette permanente idée et identité qu'il y a une identité masculine mythique qui est perdue et qu'il faut retrouver. C'est les fameux héros. Alors je crois que la solution n'est dans le fond ni dans l'un ni dans l'autre. Il s'agit aucunement de revaloriser finalement cette part du masculin qui n'est que dans cette forme de force, et pas non plus de rentrer dans une forme de masculinité qui se rejette. Alors là, sur la question du combat, j'ai envie de reprendre ce texte que Yanis nous a lu ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un homme qui parle à un jeune homme. C'est un homme célibataire qui a fait un choix, Paul. Et il parle à un jeune responsable. C'est un leader. C'est un chef. C'est un jeune qui a plein de choses à apprendre. C'est un jeune responsable de communauté. On pourrait même dire, c'est un personnage qui occupe une fonction de responsabilité. Et finalement, dans ce texte de 1 Timothée 6, Paul va poser la question à Timothée. Et il va, à travers ce qu'il va lui dire, il va remettre le cadre de ce que lui pense être essentiel. Alors non, ce texte ne nous dit pas finalement qu'on parle d'un homme. Mais c'est justement parce qu'il n'en parle pas que c'est la grande force de ce texte. Parce qu'il va dire à Timothée ici les éléments essentiels. Il va lui dire la première chose, tu es au service de Dieu. Mais assume. Et en plus, tu assumes parce que tu as fait une déclaration devant toute une assemblée sur ta foi, sur ton engagement. Alors ici, c'est pour Dieu. Mais l'homme n'est-il pas aussi appelé à tenir l'engagement et se mettre au service de Dieu et des autres? Et il va lui dire, et d'ailleurs il y a tout un texte qui précède, où il est question de la richesse, de l'argent. Alors vous pouvez y mettre ce que vous voulez, lorsque Paul dit, mais toi qui es au service de Dieu, fuis tout cela. C'est quoi tous ces faux semblants derrière lesquels un homme masculin va se cacher pour se donner de la valeur? La richesse, la puissance, la domination, le pouvoir, le titre, une belle carte de visite, un mariage peut-être aussi, une fonction professionnelle, l'alignement des conquêtes féminines. Vous y mettez ce que vous voulez là derrière. Et là, Paul va lui répondre, et en lui disant, fuis cela, et recherche quoi ? Alors, il utilise ici des mots très forts, la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est des termes qui pourraient tout à fait être attribués à quelqu'un d'autre qu'à un homme. Mais tout à fait d'accord avec vous. L'homme n'a pas le monopole ici de ce type de caractéristiques. Et pourtant, si vous regardez ces termes qui sont utilisés, ils nous peuvent nous faire penser à un homme en particulier qui a incarné dans sa vie la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Oui, c'est bien au Fils de l'homme dont je parle ici. C'est bien à Jésus-Christ auquel je pense. Finalement, ces caractéristiques à qui Paul invite Timothée à entrer, à accepter, c'est ce que Jésus incarnait. C'est ce que Jésus incarnait fondamentalement. Et vous allez les retrouver dans beaucoup de personnages bibliques. Hommes et femmes. Et il a besoin, Paul, de préciser ici. On peut se demander d'ailleurs pourquoi il insiste comme ça en lui disant « combat, le bon combat ». Parce que peut-être que Timothée avait des combats qui n'étaient peut-être pas les bons. Paul aussi, il avait ses combats qui n'étaient peut-être pas les bons. Certainement même. Mais il invite son jeune disciple, il invite ce jeune homme à entrer véritablement dans le vrai et le juste combat. Il lui demande d'incarner les vraies forces d'un homme en face de Dieu. Martin Stephens, qui a écrit un ouvrage sur la question de l'homme, a écrit ceci que je trouve intéressant de partager avec vous ce matin. Il dit en l'occurrence, l'enjeu de la virilité n'est pas de devenir dur, mais comme l'y invite le Christ, d'échanger son cœur de pierre contre un cœur de chair. Un cœur qui, au lieu de rêver un monde lisse comme une sculpture grecque, soit assez charnel et assez exposé pour imprimer sur lui le monde dans ses douleurs, dans ses impossibilités, dans son besoin de tendresse. Oui, cette conclusion de Martin Stephen a été écrite pour les hommes. Et elle me semble évoquer une force que les femmes peuvent aussi évidemment incarner, autant que les hommes. Dans le fond, la virilité ne serait alors dans ce sens non plus l'apanage que des hommes seuls, parce que la virilité, étymologiquement, c'est ça, c'est la force vive. Ne serait pas simplement l'apanage des hommes seuls, mais aussi de tous et toutes. Alors moi, je me pose la question ce matin. S'il serait peut-être pas bon, au vu de ces premières réflexions que nous faisons, de sortir de la question, ou plutôt du terme de virilité. Parce que je crois que ce mot ici, il exprime toujours, aujourd'hui encore, la domination, la brutalité, l'abus, le pouvoir, la compétition. Finalement, la virilité, elle fait pas simplement mal aux hommes, pardon, aux femmes, mais elle fait mal aux hommes aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans une véritable recherche de sens d'identité d'homme, mais un homme bien ancré dans une saine masculinité? Un homme qui ose affirmer de manière juste, qui ose puiser la vraie force qui l'anime, accepter aussi d'être connecté à cette part de féminité qui existe en lui et qui représente aussi sa part de force. Le féminin. Accepter cette part peut aussi être une partie du tabou que nous pouvons, dans lequel nous pouvons éviter, du piège dans lequel nous pouvons rentrer. En somme, une identité qui vient de Dieu, c'est une identité en Dieu, avec comme caractéristique d'être un véritable partenaire. Nous l'avons vu la semaine passée avec Roland Meyer. Il ne s'agit pas d'un rapport de domination, mais un rapport de complicité. Ainsi, la force, la vertu et le courage d'un cœur aimant et connecté à Dieu qui se laisse transformer. La bénédiction d'un Père qui lui donne son nom et une identité et conduit par le Saint-Esprit qui va permettre à cet homme de réaliser finalement la mission donnée par Jésus pour être un disciple engagé. Alors je crois, et là je m'adresse à mes frères, je crois que c'est seulement ainsi que nous pourrons aujourd'hui être des hommes vrais. Parce que, pas simplement parce qu'elle est biblique, mais parce que la société aujourd'hui a toujours besoin de nous en tant que tels. Et bien que nous puissions nous laisser conduire et nous laisser bénir par cette présence masculine en nous que Dieu vient bénir. Amen.